Oeil. Et ce matin, on se rend à l'inauguration d'une ferme solaire avant de vous parler d'un dispositif d'alerte du Haut Commissariat et d'une vieille affaire judiciaire. Le journal de la mi-journée de la rédaction de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On parle d'énergie solaire et comme souvent, ça se passe à la presqu'île.
Oui, de nouvelles fermes photovoltaïques ont été inaugurées ce matin. C'est presque devenu une habitude ces dernières semaines et ça se passe à chaque fois dans le sud de Tahiti. Il y avait eu la centrale Mahana Ohiupe de la famille Siu à Taiarapu Est, la ferme Mana Solar du groupe Moux et ce matin, c'est Itonui, la filiale renouvelable de TTNJ qui a coupé le ruban à Taravao. Ces deux installations, Farégouve et Farémeri, cumulent 10 hectares, 16 000 panneaux et surtout, elles complètent le premier grand pass solaire au Fénois. Charlie René, vous êtes en direct sur place.
Oui, et vous l'avez dit, Valdemar, ces inaugurations sous un ciel capricieux marquent la fin d'un cycle pour le système électrique polynésien. Le cycle qui avait été lancé en 2022 avec la première tranche d'appel à projets solaires, 4 fermes lauréates et donc désormais 4 fermes en service et raccordées au réseau. Au total, elles produisent l'équivalent de 7% de la consommation tahitienne, 7% qui viennent s'ajouter aux 34% de renouvelables des barrages de Maramanui. Deux activités qui se complètent. La preuve la semaine dernière, quand les grandes pluies ont établi un nouveau record de production hydroélectrique, quand le soleil est revenu et que les barrages produisaient encore, c'est plus de 80% d'électricité de Tahiti qui était d'origine renouvelable. Il a même fallu en délester pour éviter de faire sauter le réseau, Valdemar.
Merci Charlie René, en direct donc de Taravao.
Dans le reste de l'actualité, le Haut Commissariat annonce des alertes test en janvier.
Oui, imaginez votre téléphone qui émet une sonnerie stridente, impossible à ignorer même en mode silencieux. Sur votre écran, un message clair s'affiche. Alerte, voici les consignes à suivre pour rester en sécurité. Eh bien, c'est en somme ce que propose l'État. C'est son nouveau dispositif d'alerte des populations par téléphonie mobile. Il commence à le déployer en Polynésie française. Après un premier test inopiné qui avait fait paniquer en octobre dernier les abonnés Vini, une nouvelle phase d'essai va débuter le 15 janvier. Cette fois, elle sera élargie à tous les opérateurs du Fénois. Les précisions du colonel Cédric Rigolet, directeur adjoint de la protection civile.
On veillera à indiquer vraiment précisément que c'est des tests pour pas alerter inutilement la population, pour pas créer un vent de panique, ce qui a débuté en novembre quand les gens ont reçu sur leur téléphone cette alerte, en dépit du fait qu'il était déjà noté que c'était effectivement des tests. Mais là, on va marquer un message très très clair pour la population pour éviter le vent de panique.
Et lors des essais de janvier, le processus sera complet. Les autorités déclencheront l'alerte, les opérateurs téléphoniques la diffuseront via leurs antennes relais et chaque habitant présent dans la zone ciblée recevra un signal sonore et un message écrit directement sur son téléphone. Emilia Havez est directrice de cabinet du haut-commissaire.
Avec cet outil de téléphone, avec la géolocalisation, donc les opérateurs, selon nos consignes, par exemple si on dit on veut cibler l'alerte sur les Australes, on ciblera avec l'opérateur la cartographie des Australes et ce sera uniquement les personnes qui sont aux Australes qui recevront l'alerte.
Et cet outil moderne viendra donc compléter les dispositifs classiques comme les sirènes, les annonces radio-télévisées, les messages relayés sur les réseaux sociaux. Et ça tombe à pic avec la saison chaude et les fortes pluies qui arrivent. Le dispositif prend tout son sens, même si le risque cyclonique reste modéré selon Météo France. Les premiers tests débuteront le 15 janvier 2025. Et si tout fonctionne correctement, FR Alert sera officiellement opérationnel dès le 1er février.
Et en parlant de risque naturel, on s'envole pour le Vanuatu.
Oui, car un tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 sur l'échelle de Richter a été enregistré hier en début d'après-midi à environ 30 km de Port Vila. Plusieurs répliques ont depuis été ressenties. Des immeubles importants de la capitale du Vanuatu se sont effondrés. D'après le dernier bilan, 14 victimes et des centaines de blessés sont à déplorer dans le pays dont la capitale est privée d'eau, d'électricité et de l'essentiel des communications. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a estimé que 116 000 personnes pourraient être affectées par les conséquences du séisme. L'Australie et la France, par la voix du ministre des Armées Sébastien Le Cornu, ont déjà proposé leur soutien. L'ONU va également envoyer du matériel d'urgence.
Le dossier de l'affaire JPK revient dans l'actualité.
27 ans après la disparition de Jean-Pascal Courault, le dossier d'instruction sur l'affaire n'est toujours pas clos. Ce matin, la famille de Jean-Pascal Courault et leurs avocats, Maître Loa Papeete et Maître Bourdon à Paris, ont fait le point sur cette affaire. Philippe Courault, le frère de JPK, dénonce, je cite, « l'enlisement du travail de la justice » dans cette affaire où 5 personnes sont mises en examen. Il a livré ce matin les certitudes et convictions acquises par la famille à la lecture du dossier, mais surtout ils disent leur déception déception de ne pas voir l'instruction avancer, malgré l'arrivée en octobre dernier d'une nouvelle juge d'instruction, elle-même submergée de ce dossier dans cette période difficile au palais de justice de Papeete. Les avocats demandent à ce qu'elle puisse bénéficier des moyens qui avaient été refusés à son prédécesseur, en particulier l'aide d'un assistant juridique et la possibilité d'auditionner Gaston Floss. Depuis Paris, Maître Bourdon parle de déni de justice. Il faut que ce soit organisé un procès, la justice le doit, dit-il. Pour lui, pas de doute, c'est un crime politique. Maître Lowe lui rejette l'idée d'une délocalisation. Il faut que ce soit fait ici, dit-il.
Un autre dossier judiciaire a connu une avancée.
Oui, celui de Paul Watson, le militant pour la protection des océans et en particulier pour la protection des baleines, était détenu au Groenland depuis 5 mois. Il risquait l'extradition vers le Japon qui lui reproche des exactions sur des navires baleiniers, mais la justice du Danemark a finalement décidé de le libérer. Un soulagement pour ses soutiens partout autour du monde. L'homme de 74 ans, fondateur de Sea Shepherd, va pouvoir rentrer chez lui en France pour Noël. Au Fénois, Agnès Bennett, la fondatrice de l'association polynésienne de protection des cétacés Matatohora, avait initié plusieurs actions de soutien. Maintenant qu'il est libéré, elle aimerait le faire venir au Fénois quand il sera reposé.
On a prévu de faire un autre concert avec Paul et la Méritée Maladie, donc à suivre. Ça, c'était dans notre cœur depuis le début, de refaire un concert avec Paul en le faisant venir ici, bien sûr. On a des choses à faire ensemble. Il est déjà venu vers 2010-2011. Ça sera programmé en fonction de différents événements qui sont déjà en cours et surtout, voilà, maintenant, pour lui, l'urgence, c'est de se reposer, de voir sa famille et puis on organisera ça tranquillement.
Voilà l'association Matatohora qui avait notamment reçu le soutien de la Captain Paul Watson Foundation, mais aussi celui du président du pays qui avait écrit à 2 reprises pour demander la libération de l'écologiste.
La direction de l'aviation civile s'intéresse au carburant d'aviation durable, Valdemar.
Oui, la DAC vient de lancer un appel à candidature. Elle recherche un partenaire pour favoriser l'intégration de ces carburants plus verts dans l'aviation polynésienne. Il s'agit de combustibles produits en mélangeant du kérosène habituel avec des ressources récupérées au quotidien, notamment des huiles de cuisson ou encore de l'hydrogène ou des résidus de jardinage. Avantage, ces biocarburants sont adaptés aux moteurs de la flotte aérienne existante. Ils sont en revanche plus coûteux, 5 à 6 fois plus chers que le kérosène traditionnel, ce qui n'empêche pas les acteurs du secteur de viser une incorporation de ces combustibles à hauteur de 70% d'ici 2050. Au Fénois, la DAC va donc lancer une étude de faisabilité relative à la production de ce type de carburant. Il ne s'agit pas d'installer une usine au Fénois, mais de développer une filière de production de biomasse locale pour la livrer ensuite sur des sites de fabrication de carburant. L'étude devra par exemple identifier la disponibilité de biomasse en Polynésie française, notamment dans la filière coco, mais aussi la canne à sucre, le bois ou les déchets. D'après la DAC, 50% de la biomasse verte actuelle dont dispose le Fénois n'est ni utilisée ni recyclée et pourrait donc être valorisée de cette manière.
Et on termine sur ce cadeau de Noël avant l'heure pour les habitants de Moorea.
Oui, on vous en a déjà parlé. Le Grand Cirque de Samoa fera son retour le 23 décembre à Tahiti sous le chapiteau d'Utumauro. Mais avant ça, il fera un détour exceptionnel par l'île sœur à la salle Omnisport de Afareaitu les mercredis 18, jeudi 19 et vendredi 20 décembre. 3 soirées de folie en perspective à l'occasion desquelles le public de Moorea pourra retrouver les acrobates, les clowns, les jongleurs, les danseurs et autres magiciens de la troupe internationale présentée par Bruno Loyal et sa production. Un passage sur l'île sœur qui n'était pas forcément prévu au départ. Écoutez Bruno Loyal qui était notre invité ce matin. Oui, je voulais vraiment y aller. Beaucoup de gens m'envoient des messages sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Ils veulent vraiment que je vienne à Moorea. C'était un peu difficile d'y aller, mais nous avons eu du temps supplémentaire puisque nous avons dû attendre un rendez-vous pour l'approbation finale à Tahiti. Donc je me suis dit, pouvons-nous organiser notre venue à Moorea très rapidement? Et avec l'aide de la production, nous avons réussi. C'est incroyable que nous ayons fait ça aussi vite, qu'ils aient fait ça aussi vite. Et ensuite, ce sera donc autour du public de Tahiti. Et ça, on l'a dit, c'est à partir du 23 décembre et jusqu'à début février avec de nombreuses nouvelles attractions et notamment le retour du fameux Globe de la Mort à moto.
Un pilote
tahitien sera d'ailleurs engagé. C'est une première. Si vous voulez voir ça, les billets sont en vente sur ticketspacifique.pf, dans les 4 magasins Carrefour et bien sûr à l'accueil de vos radios préférées, Radio Inter-FM, ici à Fareouté. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Le prochain point avec l'actualité locale, c'est bien sûr le flash de 16h.
Merci beaucoup Valdemar pour ce journal. Il est midi 10 et c'est l'heure de la météo sur Radio.